France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
Et table ronde ce matin sur cette question, la France est-elle un pays de sport? Question qui se pose à 5 mois des Jeux Olympiques, alors que certains de nos plus grands athlètes émettent des doutes sur le sujet. Alors j'attends vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Nos invités ici en studio pour en parler sont Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques de France. Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour.
Et bienvenue à ce micro, Guillaume Ditsch, professeur de STAPS, agrégé d'EPS, auteur d'une histoire politique de l'EPS du 19e siècle à nos jours, et de Des jeunes et le sport, penser la société de demain, tous les deux chez De Bock Supérieur. Et enfin Nathalie Yaneta, la directrice des sports de Radio France, productrice de l'émission L'Esprit Sport, le dimanche sur France Inter. Soyez les bienvenus, merci d'être au micro d'un alors que les JO, l'événement sportif le plus attendu, le plus suivi dans le monde, 3 milliards de téléspectateurs arrivent à grands pas. Est-ce que vous l'entendez, cette petite musique, ce JO bashing, comme on dirait en français, ce fond de l'air râleur, moqueur, qui dit que les Français ne sont pas débordants d'enthousiasme à l'approche des Jeux? Madame la Ministre, vous répondez quoi à cette musique?
Moi, je pense qu'on a un intérêt qui est énorme pour ces Jeux, à la fois de la part des médias, mais aussi du grand public. On sent qu'il y a beaucoup d'attentes, et ça, j'ai envie de dire, c'est à nous, collectivement, d'y répondre et de faire en sorte que cette exigence qu'on a tous, parce qu'on veut que ce soit des grands Jeux, on soit au rendez-vous. Donc pour ça, on bosse dur. Moi, ce qui me gêne, c'est quand il y a des inexactitudes, quand il y a des fausses polémiques. Je pense qu'on a suffisamment de travail pour justement se concentrer sur l'important qui est à délivrer. Et puis, à mesure que les choses vont devenir plus concrètes, l'intérêt que j'évoquais, il va se transformer en engouement. C'est certain. Et je pense que quand la flamme va arriver sur notre territoire le 8 mai, à Marseille, il y aura une passion qui va s'exprimer. Pour l'instant, on n'a pas encore les billets en main, on ne sait pas encore tous les athlètes qui seront là, les délégations tricolores, et on est plutôt sur un moment un peu exigeant où on explique à la population les impacts sur le quotidien. Mmh. Donc, moi, je peux comprendre qu'il y ait voilà, un peu ce climat, mais en même temps, il faut le combattre parce qu'en apportant des réponses concrètes et en se réjouissant de cette perspective.
C'est Yannick Noah, le capitaine de l'équipe de France de tennis fauteuil, qui a poussé un cri du cœur. Il faut qu'on arrête de râler. On va recevoir le monde entier chez nous. On devrait être tous en train de hurler de joie, même si des fois, il y a un embouteillage qui va nous faire arriver 5 minutes plus tard à la maison. Ça va être beau et beaucoup de gens ne le réalisent pas. Nathalie Yaneta, vous êtes d'accord avec Yannick Noah? Vous avez aussi l'impression qu'on devrait hurler notre joie et que...
Non, mais le problème, c'est qu'on hurle jamais sa joie avant le bonheur. En revanche, on hurle toujours avant d'avoir mal. Donc, la ministre l'a dit, on est dans la période où on va tout se prendre, toutes les polémiques, tous les retards, tous les gnagnas.
Il y a la croix, là.
Là, il y a l'affiche. La semaine prochaine, ça sera autre chose. C'est comme ça. Lorsqu'on regarde, nous, les journalistes, la presse, par exemple, britannique, quelques semaines ou quelques mois avant les Jeux de Londres, on se rend compte que c'est pas du tout le même climat. Alors d'abord, le monde a fondamentalement changé en 12 ans, hein, quand même, c'est vrai. Mais il y a ce petit truc un peu, je sais pas si c'est un peu
français
de râleur. Vous savez, moi qui suis italienne, Cocteau disait les Italiens sont des Français de bonne humeur. Bah, ça se vérifie peut-être encore maintenant, ouais. Jusqu'au jeu, qui sait.
Et quand on interroge les Parisiens, il y a un mot qui revient à chaque fois quand on évoque les JO, c'est l'enfer. L'enfer de la fréquentation des transports, le ticket de métro 2 fois plus cher, la sécurité, le nombre de touristes. Quand on regarde les Français hors Paris, c'est le politologue Jérôme Fourquet qui le disait à ce micro. Il disait que les JO étaient un événement parisien, que pour les provinciaux, c'était très très loin et déconnecté de leurs préoccupations. Il a tort, selon vous, Guillaume Ditsch?
Non, pas complètement, mais déjà, effectivement, j'aimerais dire que ce grand événement, ça doit être vu, effectivement, de manière très positive pour... Et Madame la Ministre en parlait, effectivement, cette idée d'impact, il n'y a pas qu'un impact négatif, il y a aussi cette idée que à travers les Jeux et l'héritage, on puisse aussi mieux, peut-être, réfléchir à des enjeux de société, et peut-être, on en parlera certainement, c'est aussi l'enjeu de l'après, de l'héritage. Maintenant, peut-être, effectivement, sur cet élément, il y a une réalité aussi. Il y a peut-être un risque aussi qu'on rate la cible, hein, entre guillemets. Dans cette idée aussi que ces grands événements, il est peut-être aussi parfois éloignés de la réalité, des réalités sociales, hein, peut-être des urgences du quotidien pour certaines populations, éloignés de cette culture peut-être sportive. Et principalement, on peut pas l'omettre quand même, on est dans un contexte aussi de précarité plus importante, d'inflation. Donc il est vrai aussi qu'à 5 mois des Jeux, il y a des réalités du quotidien qui peuvent éloigner une partie en tout cas de la population.
Il y a quand même une question, Amélie Goudéa-Castéra, c'est la cérémonie d'ouverture. Il y a 2 ans, on parlait d'une grande cérémonie populaire où il y aurait 2 millions de personnes qui viennent gratuitement regarder cette cérémonie d'ouverture, qui, je le rappelle, va être regardée par 2 milliards de personnes dans le monde. Ça va être immense. C'est clairement l'événement le plus regardé, plus que la Coupe du Monde. Les chiffres sont vertigineux. Et finalement, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine? Que la cérémonie d'ouverture est réservée à 300 000 personnes et pas 2 millions, dont 220 000 auront accès à des billets gratuits, les autres paieront, et ce sera sur invitation de l'État, des villes hôtes, de la région Île-de-France, de Paris 2024, etc. etc. Ces invitations, c'est pas un peu contraire à l'idée de fête populaire ?
Non, je pense qu'au contraire, ce qui est très positif dans le moment qu'on connaît là, c'est qu'on ne renonce à rien de l'ambition. On va avoir une cérémonie exceptionnelle qui va mettre en valeur notre culture, qui est inédite, qui va, dans cette ville lumière, créer des émotions hors du commun.
Et pourquoi réduire à 300 000
sans rien céder sur notre volonté en même temps de répondre aux attentes des Français qui sont parfaitement légitimes, en sécurisant le mieux possible cette cérémonie. Donc vous l'avez dit, on aura 104 000 personnes sur les quais-bas, on aura un peu plus de 220 000 personnes sur les quais-hauts, et avec un système d'invitation qui ne remet en rien en cause la dimension populaire de l'événement. Parce que les invitations qui vont être adressées par les collectivités, par l'État, par le mouvement sportif, par le comité d'organisation, vont justement viser
des
publics populaire et des publics aussi impactés par les Jeux.
Les auditeurs là qui nous écoutent ce matin, s'ils veulent aller assister à la cérémonie d'ouverture, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se faire inviter par la mairie de leur... Comment t'obtiens une invitation?
Alors, tout le mode opératoire, il sera donné fin mars. Mais oui, on peut se signaler. Et en tout cas, ce qui est important de garder en tête, c'est que ce système-là nous permet d'avoir une ambition intacte et d'avoir une sécurisation renforcée. C'est ce que les Français attendait de nous. On avait dit qu'on avait un certain nombre de variables sur lesquelles on pourrait jouer. C'en est une. Et encore une fois, le but est d'aller chercher toute une série de publics en Seine-Saint-Denis, en province, en Île-de-France.
Mais sans invitation, on ne peut pas y aller. Hein. Alors, c'est que ça soit bien clair.
Il y aura un processus de validation, mais encore une fois, quelqu'un qui est passionné, qui a hyper envie d'y aller, il n'y a aucune raison de dire qu'il ne peut pas se signaler à la collectivité locale à laquelle il appartient.
Alors, au-delà des Jeux, et même si c'est lié, on voulait ce matin vous poser la question suivante, relayée par plusieurs athlètes, dont le nageur Florent Manaudou, qui disait à l'automne dernier, je vais prendre le temps de le citer précisément, « Je vais me faire des ennemis, mais on n'est pas du tout un pays de sport. Ils ont réduit de 4 à 2 heures les heures de cours de PS. On ne peut pas dire qu'on veut être la meilleure nation en mettant ces moyens-là. Ce n'est pas possible. On a de très bons talents, mais si on va dans les pays anglophones, il y a beaucoup plus d'infrastructures. Mon ancien colocataire est parti en Australie pour le même boulot. Il gagne 5 fois plus alors qu'il entraîne des gens moins talentueux. » Fin de citation. Pardon. Comment réagissez-vous à ce constat précis de Florent Manaudou? On va commencer avec vous, Guillaume Ditch.
Alors c'est effectivement un débat qui revient sur plusieurs émissions, Florent Manaudou et plus récemment Teddy Riner. Je pense qu'il est important déjà de dire de quoi on parle. Finalement, c'est quoi cette idée d'être un pays de sport? Et de là, il s'agit vraiment de distinguer, je pense, 3 paramètres. Est-ce que on se situe sur la performance, la haute performance? Et là, en France, il y a des études récentes, notamment une étude transmise par un site britannique qui montre que la France fait quand même partie des grandes nations et sur les médailles olympiques ou les grandes compétitions. Il y a un deuxième élément, et c'est un enjeu important sur la grande cause nationale, c'est aussi sur un enjeu sanitaire, puisqu'il y a une problématique de sédentarité. Donc est-ce qu'être un pays de sport, c'est avoir un taux de pratiquants plus important? Et là, il y a une augmentation de 6 points sur les dernières enquêtes, donc ça c'est assez intéressant. Pour autant, je reprends ce que j'ai dit précédemment, il reste quand même, il demeure des inégalités entre les hommes et les femmes, et en fonction des milieux sociaux. Et vraiment, sur cet élément, il y a vraiment la question de la culture sportive.
Mais la culture sportive.
Alors, la culture sportive, si on prend l'exemple de l'EPS, je pense qu'il y a deux paramètres. Il y a effectivement évidemment déjà un élément sur le nombre d'heures de PS qui est en diminution au lycée, mais il y a surtout la qualité de l'enseignement. Il y a une vraie problématique aujourd'hui quand même en termes d'installation sportive, de rénovation, de modernisation. Alors il y a des plans qui ont été mis en place par le gouvernement, mais il y a aussi des coupes budgétaires plus récentes qui vont impacter la mission sport et ses crédits. Donc encore une fois, sur l'après, pour vraiment assurer peut-être une culture sportive, donc apprendre par son corps et par le sport, et pas simplement, j'irais avoir un temps d'défoulement, bah nécessairement ça demande certes une ambition, mais des moyens à hauteur. Et là encore, on peut se poser cette question sur l'après.
Vous allez répondre à Amélie Boudéa-Castera, mais Nathalie Ionetta, c'est un de vos combats depuis 20 ans. Vous dites des sportifs, on en a, des champions, on en a, des grands événements aussi. En revanche, est-ce que tous ces éléments font de la France un pays de sport ? La réponse est non.
Non, parce que qu'est-ce qui est à l'origine, normalement, de la définition d'un pays de sport ? C'est la considération de ce qu'est la valeur sportive, de sa compréhension dans tous les éléments dont a parlé Guillaume Ditch, c'est-à-dire à la fois le vivre ensemble, la santé, et une forme de, on va dire, de citoyenneté aussi, d'apprentissage d'un certain nombre de valeurs. Quand tout petit, lorsque vous êtes très bon à l'école, on ne vous valorise pas autant que votre petit voisin ou voisine de table qui est bon ou bonne en maths ou en philo, il y a une distorsion qui ensuite n'irrigue pas tout en haut. Et à la fin de la fin, nous sommes un pays de sportifs, il y a beaucoup de pratiquants en France, beaucoup plus que dans d'autres pays, que ce soit en club ou que ce soit en individuel. Nous sommes un pays d'événements sportifs, nous savons les accueillir et les consommer à la télévision, les audiences sont massives quand ce sont des grands événements. En revanche, la culture sport, qui consiste à aller voir jouer son équipe toutes les semaines, pratiquer son activité, retrouver ses potes tous deux ou à trois fois par semaine, et surtout être valorisé, parce que c'est ça que dénoncent Florent Manaudou et tous les grands sportifs, leur place dans la société, comment ils sont considérés, à hauteur de quoi on va les regarder pour faire d'eux des emblèmes de la réussite à la française.
C'est-à-dire qu'ils ont, ils sentent du mépris.
Mais parce qu'il y en a. Mais il y en a partout du mépris contre les sportifs. Alors on va les valoriser
Manaudou,
pendant quelques
Teddy
minutes.
Riner.
Oui, mais on va pas
Riner,
c'est les dieux du stade, non ?
Oui, mais est-ce qu'on va considérer qu'ils incarnent une manière de réussir à la française ? Est-ce qu'ils vont importer un savoir-faire, alors pour le coup de fabrication de français, de champions à la française ? La réponse est moins que des acteurs, moins que des auteurs, moins que des chefs d'entreprise, que des chercheurs ou des scientifiques.
Amélie Oudéa-Castera ?
Moi, je pense que la situation, elle évolue. Et je suis parfaitement d'accord sur le fait que on est une nation de grands sportifs. Je pense qu'on a des champions que le monde entier nous envie, des équipes, y compris féminines, qui se sont illustrées absolument magnifiquement, qui font la joie de la nation. Pas de doute là-dessus. De la même manière qu'on est un pays capable d'organiser des grands événements. On a chaque week-end 700 000 personnes qui vont dans les stades sur les différents sports collectifs. Et on est cette nation de sportco exceptionnelle. Et je pense
qu'on est en train
de devenir une nation sportive. Pour la première fois cette année, c'est la grande cause. En 46 ans, le président de la République a décidé de dédier cette année cette grande cause à la promotion de l'activité physique et sportive. Et on a pris surtout toute une série de mesures depuis 2017 pour y arriver. Et un élément de ça, aujourd'hui, on a réussi à avoir 3,5 millions de pratiquants supplémentaires de sport, pratiquants réguliers, ce qui est un résultat totalement inédit et dont on doit collectivement se réjouir, même si on veut aller plus loin. Et ça, c'est le fruit d'une politique avec notamment un effort qui est inédit sur les équipements sportifs. Au total, sur l'ensemble des deux quinquennats, on aura investi près de 1 milliard d'euros sur les équipements sportifs. On est en train de faire sortir de terre 5000 équipements de proximité et on réinvestit dans un plan d'équipement, y compris sur le volet structurant et sur les cours d'école active. Sport à l'école, la mise en place
pourquoi
des 30 minutes d'activité physique quotidienne.
Pourquoi vous avez baissé
les 2 heures de sport en plus pour nos collégiens?
Non.
Le passeport, 100 millions d'euros investis pour démocratiser l'accès au sport.
Il l'a dit, Guillaume Ditch, le prof.
Madame
la ministre, juste pourquoi est-ce que vous avez abaissé ce que dit Florent Manaudou de 4 à 2 heures le nombre d'heures de PS?
Non, ça n'a pas été abaissé.
Non, ça n'a pas été abaissé. Et la France est le pays au monde qui investit le plus dans son EPS. On investit 5,9 milliards d'euros pour des professeurs qui sont très bien formés,
qui n'ont pas moins de
la base. Et on le voit, la réussite de très grands sports, c'est aussi parce que c'était des sports de préau qui deviennent ensuite des sports de podium. Mmh. Le handball étant un formidable exemple. Et on a en plus un système très positif avec des associations sportives où nos professeurs de PS s'investissent, ce qui est formidable et qui crée ce continuum qu'on a maintenant besoin de renforcer avec les clubs.
Vous pouvez préciser sur Florent Manaudou qui dit qu'il y a une baisse de nombre d'heures.
Sur Florent Manaudou et Madame la Ministre, effectivement, sur les dispositifs mis en place. C'est pas le gouvernement qui a abaissé, pour être très clair. Hein, c'est simplement dans les programmes, vous avez 4 heures de PS en 6e, 3 heures au collège et 2 heures au lycée. Maintenant, il y a la question, effectivement, pourquoi finalement abaisser ce nombre d'heures au lycée à un moment où toutes les études montrent qu'il y a un décrochage de l'activité physique à l'adolescence.
C'est à ce moment-là qu'on perd les jeunes.
Et là, il y a des vraies
étapes de la vie.
Effectivement, je rejoins cette réflexion. Et là, j'aimerais répondre effectivement à Madame la Ministre sur cette expérimentation de 2 heures collège. Il y a une enquête assez récente de l'INJEP qui a montré que finalement, là aussi, on ratait un peu la cible. Finalement, ce dispositif qui, au départ, c'était la commande, devait s'adresser à des élèves plutôt sédentaires, éventuellement surpoids, en tout cas ayant des problématiques de santé, on s'est davantage centré sur des élèves qui étaient déjà acculturés à cette pratique sportive. Donc moi, j'aimerais dire, est-ce que finalement, on n'aurait pas pu proposer un dispositif davantage au lycée, à ce moment où davantage de filles aussi décrochent de l'activité, et peut-être aussi pour être mieux considérées par la culture et pas simplement par l'enjeu de santé. Parce que c'est ça, il y a un enjeu de santé, mais il y a aussi un enjeu de culture, et Nathalie Yanetta en parlait, pour être peut-être mieux considérée à l'école.
On passe au standard où nous attend Philippe. J'aimerais lui donner la parole, il nous attend depuis longtemps. Philippe, qui est prof de PS. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Allez, on vous écoute.
Bien. Tout d'abord, enfin, France Inter invite un enseignant d'éducation physique pour parler des vrais problèmes concrets sur le terrain.
Ah, il est déjà venu à l'antenne plusieurs fois. Hein.
Parce que, non, ça fait... Moi, je suis un auditeur fidèle de France Inter, excusez-moi. Alors, on invite des sportifs. Madame Yanetta fait une émission hebdomadaire, au moins, sur le sujet.
Avec Guillaume Ditch, qui a été invité pendant une heure.
Bien, alors, je dois dire que d'abord, l'intitulé est mauvais pour l'émission. On devrait parler de sport, d'activité physique,
ouais.
Et non pas d'activité sportive, premièrement. Bien, le problème fondamental, c'est les objectifs que l'on veut atteindre. C'est pas les Jeux Olympiques qui vont régler les problèmes de santé, hein, de sédentarité, etc. L'obésité qui grimpe, ce ne sont pas les annonces très médiatisées. De M. Macron, par le passé, ça a été Blanquer qui avait fait un petit tour en costard-cravate pour faire une séance de 10 minutes de gym avec une école primaire, etc. Enfin bref.
Alors dites-nous votre question.
On est là dans le tape à l'œil médiatique. Pendant ce temps, nous manquons de classes à effectifs moins chargés. En lycée, nous avons jusqu'à 35 élèves. En collège, c'est minimum 28, quasiment partout. Hein. Comment voulez-vous travailler dans de bonnes conditions? Bon, les installations sportives, oui, il y a des progrès de fait, mais on sait que dans le 93, il y a presque la moitié des élèves qui ne savent pas nager. Alors, excusez-moi, ce ne sont pas les Jeux Olympiques qui vont régler ce problème.
Merci Philippe pour votre intervention. On va donner la parole à Guillaume Ditch sur ce point. Vous confirmez ce que nous dit notre auditeur?
Oui, alors c'est une réalité. Bon, je ne vais pas rentrer effectivement sur les premiers constats, mais peut-être plus sur la fin de l'intervention de cet enseignant en 2PS. Il y a une réalité, on parle beaucoup d'heures, mais encore une fois, il y a une qualité d'enseignement. L'éducation nationale, le service public doit assurer quand même une égalité, une mission quand même républicaine à l'ensemble du territoire. L'exemple de la Seine-Saint-Denis est assez intéressant parce que, effectivement, à travers ces jeux, certainement Madame la Ministre en parlera sur l'héritage immatériel. Effectivement, il y a des installations sportives, notamment des piscines qui ont été construites. Mais là aussi, il y a un enjeu quand même plus important puisque, effectivement, ce savoir nager, mais sur la pratique sportive de manière générale, dans cette qualité d'enseignement, la réalité partout, c'est que vous ne pouvez pas assurer 4 heures, 3 heures, 2 heures. Une politique de proximité, d'installation sportive de proximité pourrait peut-être déjà garantir cette réalité. La Seine-Saint-Denis, peut-être un dernier élément, je pourrais en apporter d'autres, hein. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, 50% des installations sportives ont plus de 30 ans. Donc, il y a un vrai enjeu, effectivement, de modernisation, de rénovation, aussi par rapport à un enjeu climatique. Et là aussi, il y a une forme de contradiction, puisque dans les derniers coûts budgétaires annoncés par Bercy et le ministre Bruno Le Maire, ce qui est impacté prioritairement, c'est l'écologie, mais c'est aussi l'éducation et la recherche.
Guillaume Ditch, il nous reste 3 minutes, on va vous poser, parce que c'est un tsunami de questions, là.
Énormément.
Je dois dire que...
Standard application.
Ça explose le nombre de questions.
Au niveau du lycée, il y a quand même plein de solutions qui sont permises par les associations sportives et par nos clubs. Et c'est un moment où nos ados, ils ont besoin de choisir le club, le sport qui leur plaît. Alors que
et parfois, ils renoncent à choisir, et notamment les filles.
Hein. Où il faut qu'on ait une culture générale physique.
Alors, plein de petites questions rapides, s'il vous plaît. Fabien, sur l'application d'Inter, si vous vouliez des jeux populaires, il fallait des billets à prix abordable, des accès plus aisés aux compétitions.
Il y a un effort énorme qui a été fait sur l'accessibilité, même si oui, le haut de la fourchette, c'est cher. Moi, je veux redire que ces jeux seront des jeux populaires. On a la moitié des billets qui sont à 50 euros ou moins. On a aussi, sur cette logique de cérémonie d'ouverture, toute l'expérience accumulée avec la billetterie populaire. Et nous ferons en sorte d'avoir des jeunes, d'avoir des bénévoles, d'avoir des personnes qui s'investissent dans le sport, d'avoir aussi l'accès pour des personnes qui sont impactées. Donc c'est tous ces publics-là que nos collectivités territoriales connaissent très bien, que nous allons embarquer dans cette aventure de jeux, encore une fois, qui sont...
Rapidement sur l'application, Alain, je suis rentré hier en France par Roissy, pas une affiche annonçant les JO. Nicolas, j'étais à Londres un an avant les JO, la ville était aux couleurs de l'événement, pas une vitrine sans un logo, pas une affiche sans un logo. Je vous laisse faire un tour à Paris, ça rejoint les propos de Teddy Riner sur le sujet. Nathalie Yaneta, est-ce que il n'y a pas eu du retard à l'allumage sur la communication, tout simplement sur les murs de la ville ou des villes?
C'est vrai que sur la signalétique, c'est assez impressionnant, parce que même en 98, on vous parle d'un temps vraiment très ancien, au moment de la Coupe du Monde de foot, il y en avait partout, bien avant le mois de juin et le début de la compétition. Là, il faut se bouger un tout petit peu, madame la maire de Paris, madame la présidente de région Île-de-France, peut-être madame la ministre et monsieur le président du COJO aussi, Tony Estanguet. Il faut y aller, hein.
Matignon est aux couleurs des Jeux, l'hôtel de ville est aux couleurs des Jeux, le ministère des Sports est aux couleurs des Jeux.
Les institutions, c'est rien, on veut les voir dans la rue. C'est vrai que sortant
de
Roissy...
C'est vrai qu'on voudrait de la signalétique un peu.
Cette signalétique se met en place au printemps, elle sera là.
Au printemps. Non, c'est dans 20 jours, hein. Oui, même pas, dans 15 jours le
pour
printemps.
Pour J-100, allez.
J-100.
Allez, J-100.
Allez.
Quelques questions,
une autre question.
Rapides. Qui se baignera dans la Seine autour de cette table? Vous y allez, madame la ministre?
Moi, j'ai dit, je absolument. Je
Nathalie?
Le pari.
Non, mais alors, pas du tout.
Parce que vous
non,
avez
mais parce que j'aime
prendre...
pas l'eau, moi, donc ça n'a rien à voir avec la
Elle
Seine.
N'aime pas l'eau. On vous invite
pour
en parler.
Et vous, Guillaume Nitsch?
Moi, je vais pas vous répondre par oui, par non. J'aimerais plutôt, effectivement, qu'on continue d'investir sur notamment le savoir nager pour des élèves, et notamment en Seine-Saint-Denis. Et ils en ont besoin plus particulièrement.
Emmanuel... C'est pas incompatible, hein. On fait les deux. On investit dans le savoir-nager, on investit dans la baignabilité de la Seine et de la Marne pour que les habitants, à partir de 2025, puissent s'y baigner.
On verra que dans quel état vous ressortez de l'eau pour savoir si on plonge.
On est en train de fabriquer une émission spéciale avec Fabienne Sintès qui veut le faire pour France Inter dans le 18-20.
Emmanuel Macron disait la France doit finir au top 5 des médailles, on doit en gagner 50. Vous le dites aussi ce matin?
Alors,
en 30 secondes vraiment.
On veut, alors moi je raisonne pas sur un nombre en valeur absolue, on veut être dans le top 5 et on sait aujourd'hui que les projections nous permettent d'espérer qu'on atteigne cet objectif. Le sport français, il se porte bien et moi je veux le souligner, il y a une reconnaissance qui est de plus en plus forte pour nos athlètes. Quand nos Teddy Riner, nos Florent, nos Stéphane Diagana évoquent ces problématiques-là, ils font aussi référence à ce qu'ils ont connu eux à leur époque. Aujourd'hui, rappelons-nous, à Rio, 40% de la délégation qui vivait en dessous du seuil de pauvreté. Il n'y aura pas un athlète en dessous du seuil de pauvreté qui se présentera aux Jeux de Paris, et nous sécurisons que pour tous les athlètes qu'on suit plus particulièrement, il y ait au moins 40 000 euros par an pour eux. Donc on a fait des progrès considérables, on investit plus 70%.
Impossible à couper.
C'est important parce qu'on fait des écoles gigantesques et je pense que nos athlètes avec qui on passait du temps
récemment... Battez Ségolène Royal, hein. Attention.
S'en réjouissaient récemment. C'est important de
souligner
le progrès et la dynamique.
Dernière question, mais là vraiment en 10 secondes, Aya Nakamura qui chante Piaf, c'est fait?
Non, c'est Thomas Joly, le patron de cette cérémonie d'ouverture.
Ah, c'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé.
On aura des grands artistes, vous inquiétez pas. Ça va être formidable pour l'instant.
Vous trouvez que c'est une bonne idée,
vous ? Rien n'est officialisé.
Aya Nakamura qui chante Piaf ?
Écoutez, moi, à titre personnel, j'adore Aya Nakamura. Je pense que c'est pas un hasard si elle est l'artiste francophone la plus écoutée au monde.
On en reste là. Merci Amélie Oudéa-Castéra, Guillaume Ditsch et Nathalie Yaneta. Merci d'avoir été là ce matin. Il est 8h47.